France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour en Saône-et-Loire. Il s'est passé de jolies choses toute la semaine dans ce département de Bourgogne-Franche-Comté. On a parlé d'un immense sanatorium à l'abandon, pas loin de Cluny, où se démène un collectif pour créer un tiers-lieu qui accueillera bientôt des spectacles et une brasserie artisanale dans cet ancien sanatorium. On a parlé aussi du bateau à hydrogène que propose à la location une entreprise de navigation fluviale ou encore d'une maison de retraite pour les animaux. Les épisodes précédents sont disponibles en podcast. Et aujourd'hui, voici une forêt où tout se mange, des fruits et des plantes comestibles partout à portée de main. Ce serait le décor parfait pour un conte, le point de départ d'une histoire à raconter le soir. Et pourtant, elle existe dans la vraie vie, cette forêt. C'est un jardin forêt, précisément, à Dicône, pas très loin de Chalon-sur-Saône, au cœur de la Bresse bourguignonne. Et vous allez comprendre ce que ce projet porte comme enjeu considérable. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Bonjour Fabrice Desjours.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes le créateur de l'association Forêt Gourmande. Alors on va comprendre avec vous ce qu'est un jardin forêt et quelles solutions d'avenir peuvent y pousser. Pouvez-vous d'abord nous décrire votre jardin, une carte postale radiophonique s'il vous plaît ?
Une carte postale. Alors, c'est un jardin avec des zones qui sont très différentes. Un jardin qui est constitué surtout des associations d'arbres, d'arbustes, de lianes, de plein de petites plantes qui vont être des plantes terrestres et aussi des plantes aquatiques parce qu'il y a des clairières et dans cette forêt assez complexe, il y a des clairières qui sont aussi des clairières aquatiques. Donc, on va manger des plantes aussi et des plantes de berge, des plantes de la lame d'eau. Et on a des décors, des ambiances qui sont très différentes et surtout une grande diversité végétale qui va nous permettre de nous nourrir.
Jardin de 2,5 hectares, luxuriant, hein, on peut employer le mot ?
Luxuriant, oui, l'idée de façon de départ était vraiment de s'inspirer de ce qu'on voit sous les tropiques, ces sortes de jungles comestibles en fait, et ces agroforêts, donc de partir de ce projet rêvé et de le mettre en place dans nos climats. Oui.
Une jungle en Saône-et-Loire donc. Quelle est votre définition du jardin forêt, Fabrice Desjours ?
Alors c'est un jardin boisé, un jardin qui est basé surtout sur l'utilisation de plantes qui sont des plantes ligneuses, donc les arbres, des plantes qui sont vivaces, qui vont vivre longtemps, parce que l'agriculture actuellement est plutôt basée sur l'utilisation de plantes qui sont annuelles, donc on va avoir tendance en fait à recommencer chaque année la même chose pour cultiver, pour avoir des récoltes. Et là, on est sur un système complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on va créer une forêt qui est à manger, une forêt qui va grandir dans le temps, et après il n'y aura plus qu'à se promener à faire des cueillettes. Donc, on est vraiment sur un espace de multiproduction. On va récolter des feuilles, des fruits, des graines, des tubercules, des sirops de sève, des produits de la ruche, de la viande, puisqu'il y a des petits élevages, toutes sortes de ressources dans ces systèmes qui sont des systèmes quand même globalement boisés avec tous les avantages environnementaux associés. Ouais.
C'est un jardin sans jardiner donc, un truc de flemmard un peu.
Alors, il y a du travail en amont hein, sur de la conception, sur la réalisation du jardin, sur l'aider en fait à grandir, surtout avec les problématiques climatiques qu'on connaît depuis plusieurs années. Mais après, effectivement, l'écosystème a une certaine maturité et en fait, le postulat de départ, c'est en fait qui arrose et fertilise une forêt, personne, elle se débrouille toute seule. Et donc, quand on arrive à imiter les processus naturels de mise en place de forêts, et qu'on les pilote, en fait, on les conduit pour qu'elles soient implantées d'essence qui sont toutes alimentaires, ben, on n'a plus qu'à se promener, effectivement, et à remplir les paniers. Ouais.
Vous organisez dans ce jardin forêt à Dicône, en Saône-et-Loire, des stages et des visites commentées, notamment, et ça marche plutôt très bien, je crois. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? Est-ce une réponse à l'angoisse climatique, justement ?
Alors, il y a plusieurs explications. En fait, on est vraiment à la croisée de pas mal de solutions. Donc, il y a des personnes, on a vraiment des publics qui sont très, très variés. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des scientifiques, ça peut être des enseignants, ça peut être des maraîchers, ça peut être vraiment toutes sortes de corps de métier ou même d'amateurs qui viennent piocher un petit peu dans ce nouveau concept d'une matière pour donc produire à manger, mais aussi faire de la vente commerciale, c'est aussi pour faire du retour de la biodiversité. On le voit sur des comptages d'animaux, vraiment. L'idée, c'est vraiment de produire de la nourriture en partageant l'espace avec le reste du vivant. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant. Et les jardins-forêts, ils vont éduquer aussi. Donc on les imagine sur les espaces publics, dans les villes, dans les villages, des endroits où on va tous réapprendre en fait à être en interaction positive vue ensemble, de partager les espaces. Et puis ce sont des endroits aussi qui ont un effet climatiseur et un effet sur le climat, sur le sol aussi, le sol qui va rester vivant, et sur les grands cycles, on va dire, de fertilité. Donc on n'arrose pas la forêt-jardin quand elle a une certaine maturité, et on ne fertilise pas, elle se débrouille toute seule. Donc tous ces avantages-là, sans compter aussi la palette végétale, puisque actuellement, notre consommation alimentaire, elle est basée sur 50 à 60 espèces végétales tout au plus, dont une partie importée. On peut penser par exemple aux mangues ou aux noix de coco, à des choses comme ça, diverses, aux ananas. Là, on parle en jardin-forêt de la capacité de produire 5000 à 7000 espèces végétales sans renfort technique, hein, c'est-à-dire sans aucune serre, sans choses comme ça. 5000 à 7000 espèces, c'est remarquable. Donc, il y a des arbres qui vont nous produire des sortes de mangues en plein air. On va avoir des conifères qui, à l'ombre, vont nous permettre de faire de l'huile. On va avoir la baie aux cinq saveurs, la baie sucrée, salée, acide, amère, astringente à la fois. En fait, il y a une gamme de production qui est complètement incroyable, et ça plaît aussi énormément aux cuisiniers, aux chefs, aux restaurateurs. Vous voyez, ça entraîne en fait plein de professionnels, de corps de métier. Oui.
Vous avez accompagné, Fabrice, la création d'un jardin similaire à Cluny, donc en ville. Le jardin forêt, oui, a aussi sa place en ville.
Tout à fait, voilà. Alors là, vraiment, pour un objectif, on va dire, peut-être environnemental, l'effet climatiseur, hein, qui est vraiment souhaité, et puis qui est optimisé par les arbres, ça va être vraiment des endroits où on va tous se retrouver, donc des endroits d'éducation populaire, des endroits où on partage l'espace, c'est vraiment au service des communs, et c'est ça qui nous intéresse dans ce type de projet. En fait, on fonctionne à ce moment-là comme la forêt. La forêt, son moteur évolutif le plus important, c'est pas la compétition et la rivalité, ce sont les symbioses, c'est le partenariat, c'est les mutualismes, et c'est vraiment retravailler comme ça tous ensemble qui fait que on a des projets qui sont assez extraordinaires, de les voir se réaliser, une sorte de d'effervescence finalement collective.
Ce qui est intéressant aussi avec votre jardin forêt à Dicon, c'est qu'il est assez récent, et pourtant c'est déjà un garde-manger perpétuel.
Alors oui, cette année, il y a eu tellement de récoltes, de toute façon, on n'avait pas le temps de toutes les traiter. De toute façon, on a beaucoup de sollicitations, donc à notre sens, ce qui est le plus important, c'est vraiment de diffuser, d'aider le déploiement de ces projets-là à l'échelle des territoires. Mais effectivement, le projet a 13 ans. Alors j'étais tout seul pendant 8 ans pour tout planter. C'était un passe-temps, puisque j'avais une autre occupation à côté. J'étais jeune papa aussi, donc j'étais plutôt bien occupé. Mais voilà, ça prend finalement assez peu de temps. Or, les récoltes et la transformation derrière.
Vous le disiez, vous aviez une activité à côté au début, vous étiez infirmier psychiatrique, je crois. C'est assez étonnant, hein, comme reconversion professionnelle.
Oui, alors infirmier psychiatrique, aussi infirmier libéral, ou aussi un petit peu à l'hôpital, mais voilà, surtout en psychiatrie, effectivement. Mais j'ai eu l'occasion de voyager, de travailler dans des endroits sous l'équateur, en région équatoriale, là où il y avait justement, d'une façon historique, des systèmes d'agroforêt. C'est-à-dire, vous avez l'impression que ce sont des forêts primaires, où les humains n'ont jamais été, et pas du tout, ce sont des forêts qui ont été plantées, ou en partie aussi semées, des forêts très complexes, avec des arbres, des palmiers, des lianes, et en fait, vous avez juste à vous promener avec un coupe-coupe, des paniers vides, et vous ressortez de ces agroforêts avec des paniers pleins, c'est extraordinaire. Et ce qui m'avait le plus marqué, je pense, c'était de manger des feuillages d'arbres. Mes collègues dans ce dispensaire, justement, allaient faire de la cueillette de fruits extraordinaire, comme on peut les imaginer sous les tropiques, mais elles ramenaient des feuilles d'arbres, elles faisaient des cuisines extraordinaires avec ces arbres légumes, et ça, je me suis dit, mais en fait, le travail qu'on a pour faire des rangées de salades, du semis, jusqu'à la récolte, pour finalement un volume de production qui est assez faible, et recommencer l'année d'après la même chose. Là, vous vous rendez compte, vous avez simplement à planter ces arbres légumes et à venir au bout de 2 ans, 3 ans faire les prélèvements. Année après année, il va grandir, il va protéger le sol, il va pouvoir héberger des oiseaux, il va protéger le climat. On est sur quelque chose qui fonctionne, parce que quand on veut se nourrir, quand on veut s'ombrager, quand on veut protéger le vivant, il faut planter des arbres. En fait, c'est la grande règle, assez facile, vraiment s'amuser autour de tout ça. Ouais.
Bon, évidemment, c'est dangereux, hein. Il y a des plantes qui ne se mangent pas, qui sont même toxiques. Donc, il faut faire très attention quand on se promène dans une forêt-jardin. Tout n'est pas comestible.
Voilà, alors c'est une forêt qui se mange, mais ça ne veut pas dire que tout se mange dans la forêt, effectivement. Alors, dans le site expérimental de l'association, on est sur plus de 1000 espèces alimentaires différentes. Et il y a aussi des espèces qui sont spontanées, qui sont pas du tout comestibles, et voire qui peuvent être vénéneuses, mais qui sont tolérées parce qu'elles sont fonctionnelles, elles vont aider l'écosystème à bien se porter. parce qu'il n'y a pas de traitement du tout, par exemple, sur nos arbres fruitiers. Les arboristes sont assez étonnés, en général, de la pleine santé des fruitiers, parce qu'il y a cet écosystème qui est complexe. Mais effectivement, il y a des précautions d'usage, faire attention à goûter. En plus, quand une plante est alimentaire, des fois, c'est qu'une seule partie du végétal qui va se consommer. Parfois, après traitement, on le sait très bien, par exemple, sur la rhubarbe, on va manger que le pétiole, ce qu'on appelle faussement la tige, le pétiole. On va pas manger la feuille qui est toxique, mais ça, on le sait parce que nos parents, nos grands-parents nous l'ont expliqué. Et ces usages-là sont connus et se transmettent. Et après, voilà, il y a pour les allergiques, on va goûter un nouveau produit juste en petite quantité. Évidemment, on ne va pas associer 10, 15, 20 nouvelles espèces au cours d'un repas quand on a un terrain allergique. Ouais.
Vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de profils différents qui visitent votre forêt gourmande. Quelles sont les réactions que vous préférez quand les gens découvrent votre jardin ?
Alors, ce que je préfère, je dirais, il y a un émerveillement qui se ramène vraiment au monde de l'enfance. Quand on crée quelque chose, ça se rapporte aussi, je pense, à soit ce que fait l'enfant spontanément, ou ce que font les artistes. Et espèce d'émerveillement de revenir aussi à quelque chose de conscient, de vraiment de l'instant. Mais ça, c'est vraiment permis dans ces espaces-là. Il y a aussi une fonction, je pense, vraiment thérapeutique de ces endroits-là. Ça fait comme une douche émotionnelle, donc les gens sont vraiment surpris, puis de goûter ces nouvelles saveurs, ces choses incroyables, et peut-être aussi le chant des oiseaux par rapport à tout ça. Et ce qui me touche aussi particulièrement, c'est qu'en fait, il y a aussi des gens qui viennent, qui ont eu l'occasion de voyager, quand ils nous transmettent une information. Bah, je me rappelle, par exemple, de la rue officinale, quelqu'un revenait d'Éthiopie, il me disait, cette rue officinale qui est condimentaire, qui peut être toxique à une certaine dose, elle est utilisée chaque matin dans le café, elle va parfumer juste quelques petites feuilles, comme ça, vont parfumer le café. Et en fait, si les auditeurs ont de la rue officinale et aiment le café, ils pouvaient goûter une petite note comme ça, c'est extraordinaire, ça va en fait parfaitement envelopper les arômes du café et les transformer en fait d'une façon incroyable. En fait, on transmet beaucoup d'informations et on en reçoit aussi beaucoup également.
Je renvoie les auditeurs à votre site internet pour le planning des stages et des visites commentées de la forêt gourmande. Et je renvoie aussi à votre livre publié aux éditions de Terran qui s'appelle Jardin Forêt, un nouvel art de vivre et de produire. Vous faites aussi des vidéos sur votre chaîne YouTube. On trouvera un lien sur notre site internet. Merci beaucoup Fabrice Desjours.
Merci à vous Dorothée.
Association Forêt Gourmande à Dicône en Saône-et-Loire. Très bonne journée, à bientôt.
À bientôt, au revoir.